Bonsoir et merci d'être venus ou revenus si nombreux pour cette troisième étape d'une série de quatre d'un hommage à Shakespeare, d'un hommage anthologique à Shakespeare dans l'atelier romanesque pour explorer ensemble en compagnie de Dominique Parent qui nous fera l'amitié de lire les textes des extraits d'œuvres de prosateurs du 19e et du 20e siècle inspiré par Ricochet, par le grand Shakespeare, qui est à la fois la bombe qui a fait éclater ses œuvres en les inspirant au XIXe siècle, et disons une mèche aussi d'autres bombes qui ont éclaté plus tard. Ce soir, les passions funestes, Macbeth, Othello et Lear, nous serviront de triple fil conducteur. Et c'est Florence Nogrette, professeure à Paris 4 et spécialiste, je ne cesse de le redire, mais ça devient de plus en plus vrai, de théâtre romantique et de théâtre en général, qui va ouvrir le bal en nous présentant un extrait de Macbeth. Elle sera suivie de Dominique Bois-Blanquet, présidente de la Société française Shakespeare, entre autres titres et qualités, et de plus en plus également. Dominique, qui a été la maîtresse d'œuvre de cette série d'hommages anthologiques en proche collaboration avec Florence, qui elle nous parlera de Dumas et de la reine Margot, et à partir de là nous enchaînerons, nous continuerons à nous enfoncer dans des passions de plus en plus funestes. J'en sais quelque chose puisqu'il m'appartiendra à un moment de parler de Barbet, mais nous n'allons pas dévoiler toutes les surprises, et nous commençons tout de suite avec Florence qui va nous parler, je crois, de Claudel, un personnage qui revient souvent lorsqu'il est question de Shakespeare, et pour cause.
Oui, le premier des grands héros animés de passion funeste dont nous allons parler ce soir, c'est Macbeth. Et le texte qu'on va entendre tout de suite, c'est un texte de Paul Claudel qui fait partie d'un ensemble intitulé « Conversation sur Jean Racine ». C'est un texte de 1954 paru dans les cahiers de la compagnie Renaud Barrault. Jean-Louis Barrault avait passé commande à Claudel d'un texte sur Racine. Et du reste, dans ce dialogue, la fin est consacrée à Phèdre, évidemment en hommage à la Phèdre que Barrault avait montée quelques années auparavant. La forme de ce texte, c'est un dialogue entre Paul Claudel et son double. Son double, c'est Arcas, qui est le confident d'Agamemnon dans Iphigénie de Racine, celui à qui Agamemnon dit son intention de sacrifier sa fille Iphigénie à la demande du devin, et qui ensuite va avertir Clytemnestre des intentions d'Agamemnon. Alors, il s'agit d'une sorte de dialogue littéraire et philosophique, hein, un peu à la manière, non pas platonicienne, mais plutôt à la manière de Diderot. Et finalement, Claudel exprime sa pensée à la fois sous le nom du personnage Paul Claudel et sous le nom d'Arcas. C'est le genre aussi de la comparaison entre auteurs, hein, Racine et Corneille, Racine et Shakespeare, comme l'avait fait déjà Stendhal. Et les points sur lesquels porte la comparaison, ce sont par exemple Racine comme l'auteur, le dramaturge qui campe des situations, là où Shakespeare est l'auteur qui campe des atmosphères. Un deuxième point de comparaison, c'est celui qui va nous intéresser, la manière dont l'un et l'autre décrivent ou peignent le changement d'attitude d'un personnage. D'après Claudel, Racine explique les causes du changement d'attitude de ses personnages, tandis que chez Shakespeare, on voit d'un seul coup surgir une passion brusque, inexpliquée. Alors c'est le cas dans le texte qui va nous être lu maintenant par Dominique Parent. Il s'agit d'évoquer la nuit de Macbeth et il s'agit d'évoquer le rapport entre ce moment de la nuit où Lady Macbeth arrive dans son rêve de somnambule et le motif du retour du refoulé, de l'irrationnel qui surgit, des pulsions irrépressibles qui menacent sans cesse de prendre le dessus, non pas seulement chez les monstres, hein, comme le serait Macbeth ou Lady Macbeth, mais chez chacun d'entre nous.
Paul Claudel. Avec quel art le poète terrifié a su mettre dans Macbeth en valeur cette brutale intervention du destin ? Vous vous rappelez le dialogue du portier ivre avec l'épouvantable inconnu qui frappe de l'autre côté à coups de bûche? Et pendant ce temps, dans la nuit, le sang chaud du monarque égorgé, filtrant goutte à goutte à travers le parquet, tombe sur le nez de la brave sentinelle qui roupille au-dessous. Et au dernier acte, quand Lady Macbeth, une chandelle à la main, erre, dormante, à l'intérieur de son crime inextricable, ce n'est pas l'acte lui-même, ce sont ses coups affreux, fatidiques, qu'elle se remémore. Au lit, au lit! On frappe à la porte! Corne, 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 donne-moi la main, Macbeth! Ce qui est fait, au lit, au lit! Arcas. Et vous dites que ce sont ces coups à plein cœur dans cette caisse résonante qu'est l'imagination d'un poète, qui ont convoqué tous les éléments du drame et le tiennent encore aujourd'hui dans leurs ténébreuses vibrations suspendues? Paul Claudel. Je le dis! Et alors, que valent vos critiques? D'un bout à l'autre de la pièce, nous sommes dans l'atmosphère du rêve. Or, dans les rêves, la conscience morale est paralysée, la résistance abolie, les événements se suivent plutôt qu'ils ne s'enchaînent avec une facilité qui n'a rien à voir avec la vraisemblance. Somnambulique. Vous vous rappelez ce poignard qui flotte aux yeux hallucinés du Saint de Cawdor? Et puis, plutôt que saisi, c'est lui qui se saisit de cette main criminelle. Et alors, de lui-même, le remords est devenu de la peur, une panique génératrice sous le coup de l'accélération onirique. De nouveaux forfaits qui, peu à peu, dévorent à son profit la réalité. L'arrière-monde ne se fait pas prier pour vomir son personnel de démons et de fantômes. Lady Macbeth, c'est l'âme humaine, privée de lumière sacrée, qui illumine tout homme venant au monde et à laquelle supplée mal ce lumignon fumeux qui tremble dans sa main. La nuit s'est faite. Elle a perdu ses repères. Elle ne sait plus où elle est.
Si on remonte un peu dans le temps, on va trouver déjà chez Hugo la même idée, hein, que le rêve, la nuit sont des moments où le principe de non-contradiction n'existe plus, comme dans l'inconscient. Le texte de Hugo auquel nous avons pensé et que Dominique va vous lire maintenant, c'est un extrait de William Shakespeare, toujours sur ce personnage de Macbeth. William Shakespeare, c'est ce livre que Hugo a écrit à Guernesey pendant l'exil, après que son fils, François Victor, a écrit sa traduction du théâtre complet de Shakespeare. Alors, en 1864, pour accompagner la parution du dernier tome, Hugo écrit un gros livre sur William Shakespeare, qui est un livre d'inspiration aussi un petit peu autobiographique. Bon, cette année 64 est importante, c'est l'année du tricentenaire de Shakespeare qui est fêtée, et donc c'est l'occasion pour Hugo d'écrire un livre sur Shakespeare. Mais il y est question de sa propre conception du génie, un génie qui doit beaucoup à la conception hegélienne ou kantienne du génie, c'est-à-dire celui qui à la fois obéit à sa propre loi, non pas qu'il n'obéisse à aucune loi, mais il obéit à la sienne propre, à celle qu'il s'est donnée, et c'est aussi l'incarnation de son temps, l'incarnation de son peuple, l'incarnation de son époque. Alors, dans le livre, il est question de trois Shakespeare, le vrai, son ancêtre Shakespeare l'Ancien, Eschyle, et puis un Shakespeare moderne, que Hugo ne nomme pas, mais dont on voit bien, quand on lit le livre, que ça pourrait bien être lui. Alors, dans ce livre, Hugo commence par retracer la vie de Shakespeare assez rapidement, et puis ensuite, il se consacre à son œuvre et puis à cette notion de génie. Parmi les grandes figures shakespeariennes, il s'intéresse tout particulièrement à celle dont nous parlons ce soir, aux grandes figures de l'humanité, soit monstrueuses, soit souffrantes, qui sont parfois les mêmes. Et Macbeth, justement, c'est un personnage qui devient monstre, mais qui souffre de cette monstruosité qui lui tombe dessus sans qu'il l'ait véritablement vu venir. Alors c'est de cela qu'il va être question ici, hein, de cette barbarie ordinaire, hein, de l'homme. On peut penser un petit peu à ce concept, hein, de barbarie ordinaire qu'a développé Hannah Arendt quand elle a suivi le procès Eichmann. Et là vous allez voir que Hugo, contrairement à la conception manichéenne que l'on peut avoir du traître de mélodrame, dont Macbeth pourrait être une figure, considère qu'il n'y a pas de, de méchanceté radicale dans ce personnage, mais que la barbarie qui lui tombe dessus, elle pourrait être celle de chacun d'entre nous.
Dire Macbeth est l'ambition, c'est ne dire rien. Macbeth, c'est la fin. Quelle fin ? La fin du monstre toujours possible dans l'homme. Certaines âmes ont des dents. N'éveillez pas leur faim. C'est fini. Macbeth n'est plus un homme. Il n'est plus qu'une énergie inconsciente se ruant farouche vers le mal. Nulle notion du droit désormais. L'appétit est tout. Le droit transitoire, la royauté, le droit éternel, l'hospitalité. Macbeth assassine l'un comme l'autre. Il ne fait plus que les tuer, il les ignore. Avant de tomber sanglant sous sa main, il gisait mort dans son âme. Macbeth commence par ce parricide. Tuer Duncan, tuer son hôte, forfait si terrible que du contre-coup, dans la nuit où leur maître est égorgé, les chevaux de Duncan redeviennent sauvages. Le premier pas fait, l'écroulement commence. C'est l'avalanche. Macbeth roule, il est précipité, il tombe et rebondit d'un crime sur l'autre, toujours plus bas. Il subit la lugubre gravitation de la matière envahissant l'âme. Il est une chose qui détruit. Il est pierre de ruine, flamme de guerre, bête de proie, fléau.
Alors le thème de la guerre, le thème du sang, on va les retrouver dans le roman qu'on a évoqué la semaine dernière, La Reine Margot, qui ne s'inspire pas directement de Shakespeare, mais qui est à la fois imprégné de Shakespeare de bout en bout. Il s'inspire davantage d'une pièce de Christopher Marlowe, Le massacre à Paris, le massacre étant le massacre de la Saint-Barthélemy. Et le thème du sang, en fait, il parcourt non seulement Macbeth, mais les premières pièces historiques de Shakespeare, où on a la rose rouge de Lancastre qui est identifiée au sang, et la blanche de York à la lividité des cadavres. Mais le roman comporte donc de nombreux échos et de ces pièces-là et de tout l'univers élisabétain qu'on trouve dans les tragédies de la vengeance, avec le thème qu'on verra à la fin du passage qui va être lu par Dominique, celui du livre empoisonné, qui vient donc de ces tragédies situées souvent dans un cadre florentin. Qui dit Florentin dit Catherine de Médicis, dit Machiavel, et donc des traîtrises infâmes où on va imprégner de poison les objets les plus proches des ennemis visés, les lèvres peintes d'un tableau, les lèvres d'un cadavre éventuellement, ou comme ici un livre.
Il était 8 heures du matin. Un petit groupe de courtisans causait avec feu dans l'antichambre quand tout à coup retentit le cri et parut au seuil de l'appartement la nourrice de Charles. Les yeux baignés de larmes, criant d'une voix désespérée « Secours au roi! Secours au roi !»« Sa majesté est donc plus mal ?» demanda le capitaine de Nançay, que le roi avait, comme nous l'avons vu, dégagé de toute obéissance à la reine Catherine pour l'attacher à sa personne. « Oh, que de sang, que de sang !» dit la nourrice. « Les médecins ! Appelez les médecins !» Mazille et Ambroise Paré se relayaient tour à tour auprès de l'auguste malade. Et Ambroise Paré, qui était de garde ayant vu s'endormir le roi, avait profité de cet assoupissement pour s'éloigner quelques instants. Pendant ce temps, une sueur abondante avait pris le roi. Et comme Charles était atteint d'un relâchement des vaisseaux capillaires et que ce relâchement amenait une hémorragie de la peau, cette sueur sanglante avait épouvanté la nourrice qui ne pouvait s'habituer à cet étrange phénomène et qui... protestante, on se le rappelle, lui disait sans cesse que c'était le sang huguenot, versé le jour de la Saint-Barthélemy qui appelait son sang. On s'élança dans toutes les directions. Le docteur ne devait pas être loin et on ne pouvait manquer de le rencontrer. L'antichambre resta donc vide, chacun étant désireux de montrer son zèle en ramenant le médecin demandé. Alors une porte s'ouvrit et l'on vit apparaître Catherine. Elle traversa rapidement l'antichambre et rentra vivement dans l'appartement de son fils. Charles était renversé sur son lit, l'œil éteint, la poitrine haletante, que tout son corps découlait une sueur rougeâtre. Sa main écartée pendait hors de son lit et au bout de chacun de ses doigts pendait un rubis liquide. Charles leva impérativement la main. « Je veux parler à mon frère Henri, dit-il. Henri seul est mon frère, non pas celui qui est roi là-bas, mais celui qui est prisonnier ici. Henri saura mes dernières volontés. » Et moi ? S'écria la Florentine avec une audace inaccoutumée en face de la terrible volonté de son fils, tant la haine qu'elle portait au Béarnais la jetait hors de sa dissimulation habituelle. Si vous êtes comme vous le dites, si près de la tombe, croyez-vous que je céderai à personne, surtout à un étranger, mon droit de vous assister à votre heure suprême, mon droit de reine, mon droit de mère ? Madame, dit Charles, je suis roi encore. Je commande encore, madame. Je vous dis que je veux parler à mon frère Henri, et vous n'appelez pas mon capitaine des gardes ? Mais le diable, je vous en préviens, j'ai encore assez de force pour aller les chercher moi-même. Et il fit un mouvement pour sauter à bas du lit qui mit au jour son corps pareil à celui du Christ après la flagellation. Vous n'êtes pas plus ma mère, madame, que le duc d'Alençon est mon frère. Vous délirez, monsieur, dit Catherine. Depuis quand celle qui donne le jour n'est-elle plus la mère de celui qui l'a reçue ? Du moment, madame, où cette mère dénaturée ôte ce qu'elle donna, répondit Charles en essuyant une écume sanglante qui montait à ses lèvres. Que voulez-vous dire, Charles ? Je ne vous comprends pas, murmura Catherine, regardant son fils d'un œil dilaté par l'étonnement. Vous allez me comprendre, madame. Charles fouilla sous son traversin et en tira une petite clé d'argent. Prenez cette clé, madame, et ouvrez mon coffre de voyage. Il contient certains papiers qui parleront pour moi. Et Charles étendit la main vers un coffre magnifiquement sculpté, fermé d'une serrure d'argent comme la clé qu'il ouvrait, et qui tenait la place la plus apparente de la chambre. Catherine, dominée par la position suprême que Charles prenait sur elle, obéit. S'avança à pas lents vers le coffre, l'ouvrit, plongea ses regards vers l'intérieur et tout à coup recula, comme si elle avait vu dans les flancs du meuble quelques reptiles endormis. Plongez-y la main, madame, et prenez-y un livre. Il doit y avoir un livre, n'est-ce pas ? Oui. Balbutia Catherine. Un livre de chasse. Oui. Prenez-le et apportez-le-moi. Catherine, malgré son assurance, pâlit, trembla de tous ses membres et allongeant la main dans l'intérieur du coffre. Fatalité, murmura-t-elle en prenant le livre. Bien, dit Charles, écoutez maintenant. Ce livre de chasse, j'étais insensé. J'aimais la chasse au-dessus de toute chose. Ce livre de chasse, je l'ai trop lu. Comprenez-vous, madame ? Catherine poussa un gémissement sourd. C'était une faiblesse, continua Charles. Brûlez-le, madame. Il ne faut pas qu'on sache les faiblesses des rois. Catherine s'approcha de la cheminée ardente, laissa tomber le livre au milieu du foyer et demeura debout, immobile et muette, regardant d'un œil atone les flammes bleuissantes qui rongeaient les feuilles empoisonnées.
Oui, donc l'appétit de pouvoir de Catherine de Médicis a causé la perte de son volontaire de son fils. Alors cet appétit de pouvoir, qui est un des thèmes principaux de Macbeth, le théâtre du XXe siècle va réutiliser évidemment ce mythe pour critiquer les fureurs guerrières. Alors c'est le cas dans l'adaptation, enfin la réécriture de Macbeth que propose Ionesco, dans Macbeth en 1972. Alors le texte qui va vous être lu, c'est un texte qui fait écho au thème de la boucherie héroïque qu'on trouve déjà chez Voltaire. C'est un texte où Macbeth, sortant du champ de bataille, fait une pause et raconte la bataille qui vient de se passer dans une atmosphère de griserie du combat, redoublée par la griserie du récit de ce combat.
La lame de mon épée est toute rougie par le sang. J'en ai tué des douzaines et des douzaines de ma propre main. 12 douzaines d'officiers et de soldats qui ne m'avaient rien fait. J'en ai fait fusiller d'autres. Des centaines et des centaines par des pelotons d'exécution. Des milliers d'autres sont morts en les vifs, dans les forêts où ils s'étaient réfugiés et que j'ai fait incendier. Des dizaines de milliers, hommes, femmes et enfants, sont morts étouffés dans des caves sous les décombres de leur maison que j'avais fait sauter. Des centaines de milliers sont morts, noyés dans la Manche, eux, pris peur et voulaient traverser. Des millions sont morts d'épouvante ou se sont suicidés. Des dizaines de millions d'autres sont morts de colère, d'apoplexie ou de tristesse. Il n'y a plus assez de terre pour ensevelir les gens. Les corps gras, les noyés ont bu toute l'eau des lacs dans lesquels ils s'étaient jetés. Il n'y a plus d'eau. Pas assez de vautours pour nous débarrasser de ces cadavres. Imaginez-vous, il en reste encore et qui se battent. Il faut en finir. Si le sabre et les épées de leur gorge jaillissent comme des fontaines, des tonnes de sang dans lesquelles se voient aussi mes soldats, par bataille. bataillon, par brigade, par division, par corps d'armée, avec leur chef, en commençant par les généraux de brigade, puis suivant la vraie hiérarchie, les généraux de division, les généraux à quatre étoiles, les maréchaux, les têtes coupées de nos ennemis nous crachent dessus, nous insultent, les bras séparés du corps continuent de brandir les pieds ou tirent encore les pistolets, les pieds arrachés nous bottent le cul. Bien entendu, c'était des traîtres, des ennemis du pays. Et notre souverain bien-aimé, Duncan, l'archiduc de garde, il voulait le renverser avec l'aide de soldats étrangers. J'ai eu raison, je pense. Dans l'ivresse de la bagarre, on tape souvent à tort et à travers. J'espère ne pas avoir tué par erreur des amis. Nous combattions en rang serré, j'espère que je n'aurai pas écrasé les orteils. Oui, nous avons raison. Je viens me reposer sur cette pierre. J'ai quand même un petit peu la nausée. J'ai laissé Banco tout seul commander l'armée. Après, j'irai le relayer. C'est curieux, malgré l'effort, je n'ai pas trop faim. J'ai frappé un peu trop fort. J'en ai mal au poignet. Rien de fou, heureusement. Mais ça fait du bien, une récréation. Va nettoyer mon épée dans la rivière et apporte-moi à boire.
Après quoi, il sort. De scène retourne au combat. Et en échange, Banco vient se reposer à son tour et prononce exactement, mot pour mot, le même discours, exprimant le même dégoût pour la guerre, la même fascination aussi, et les mêmes doutes, vite balayés pour rassurer sa conscience.
Alors on va retrouver Macbeth à une autre guerre, et dans des situations également dramatiques, c'est dans le « Silence de la mer » de Vercors. Dans le chapitre où apparaît Macbeth, c'est l'officier allemand Werner von Ebernach. Alors il a été logé, sans qu'on demande leur avis évidemment, au propriétaire du château où il est cantonné. Et c'est un homme extrêmement courtois qui croit encore justement à la civilité, même dans les situations guerrières, et qui essaye de meubler les silences que lui opposent, c'est leur seule forme de résistance possible, ses hôtes, en lisant un extrait de Macbeth sur la déchéance du grand chef de guerre qui n'est plus aimé par ses hommes. Ceux qu'il commande obéissent à la crainte et non plus à l'amour, et il fait le rapprochement avec la situation politique française. Entre ce chapitre et le suivant, il y aura également une citation d'Othello, « Put out the light and then put out the light ».
Les longs jours printaniers arrivaient. L'officier descendait maintenant au dernier rayon du soleil. Il portait toujours son pantalon de flanelle grise, mais sur le buste, une veste plus légère en jersey de laine couleur de bure couvrait une chemise de lin au col ouvert. Il descendit un soir tenant un livre refermé sur l'index. Son visage s'éclairait de ce demi-sourire contenu qui préfigure le plaisir escompté d'autrui. Il dit... « J'ai descendu ceci pour vous, c'est une page de Macbeth. Dieu, quelle grandeur !» Il ouvrit le livre. C'est la fin, la puissance de Macbeth file entre ses doigts avec l'attachement de ceux qui mesurent enfin la noirceur de leur ambition. Les nobles seigneurs qui défendent l'honneur de l'Écosse attendent sa ruine prochaine. L'un d'eux décrit les symptômes dramatiques de cet écroulement. Et il lut lentement, avec une pesanteur pathétique, « Angus ». Maintenant, il sent ses crimes secrets collés à ses mains. À chaque minute, les hommes de cœur révoltés lui reprochent sa mauvaise foi. Ceux qu'il commande obéissent à la crainte et non plus à l'amour. Désormais, il voit son titre pendre autour de lui, flottant comme la robe d'un géant sur le nain qu'il a volé. Il releva la tête et rit. Je me demandais avec stupeur s'il pensait au même tyran que moi, mais il dit... « N'est-ce pas là ce qui doit troubler les nuits de votre amiral ?»« Je plains cet homme, vraiment, malgré le mépris qu'il m'inspire, comme à vous. Ceux qu'il commande obéissent à la crainte et non plus à l'amour. Un chef qui n'a pas l'amour des siens est un bien misérable mannequin. Seulement, pouvait-on souhaiter autre chose ? Qui donc, sinon un aussi morne ambitieux, eût accepté ce rôle ? Or, il le fallait. Oui, il le fallait. Il fallait quelqu'un qui accepta de vendre sa patrie parce que aujourd'hui et pour longtemps, la France ne peut tomber volontairement dans nos bras ouverts sans perdre à ses yeux sa propre dignité. Souvent, La plus sordide entremetteuse est ainsi à la base de la plus heureuse alliance. L'entremetteuse n'en est pas moins méprisable, ni l'alliance moins heureuse.
Alors, les citations de Shakespeare vont prendre tout leur sens au chapitre suivant, quand Von Ebrenach comprendra jusqu'où l'armée est prête à aller dans le crime. Le silence de la mer évoque une autre figure tragique. Il est dédié au poète Saint-Paul Roux, qui est mort en 1940 de chagrin à la suite d'un épisode qui évoque la figure de Lear, donc l'intrusion d'un soldat allemand qui a pillé son manoir, détruit ses manuscrits, blessé sa fille et tué une servante qui tentait de s'interposer.
Nous passons maintenant à la deuxième grande figure des passions funestes chez Shakespeare qui a influencé les écrivains français, c'est Othello. Et on va commencer par un texte de Victor Hugo, un texte de Victor Hugo où il est question d'une antithèse, évidemment une antithèse majeure dans Othello, qui est l'antithèse entre la noirceur et la blancheur, la noirceur d'Othello et la blancheur de Desdémone. Mais vous allez voir que dans ce texte, comme toujours chez Hugo, l'antithèse n'est pas manichéenne. Il y a d'ailleurs une phrase de William Shakespeare dont ce texte est tiré, qui définit l'antithèse, qui dit « totus in antithesi », tout est dans l'antithèse. L'antithèse, dit Hugo, c'est la meilleure façon de voir les deux côtés des choses. Et c'est pourquoi l'antithèse n'est jamais manichéenne chez lui. Soit elle exprime un scandale, soit elle exprime l'harmonie des contraires, ce qui est le cas ici, puisque les contraires, la blanche et le noir, s'aiment. Soit elle exprime la contradiction intime, la contradiction interne, qui est celle d'Othello, dont l'amour se transforme en haine.
Maintenant, qu'est-ce qu'Othello ? C'est la nuit, immense figure fatale. La nuit est amoureuse du jour. La noirceur aime l'aurore. L'Africain adore la blanche. Othello a pour clarté et pour folie Desdémona, aussi comme la jalousie lui est facile. Il est grand, il est auguste, il est majestueux, il est au-dessus de toutes les têtes, il a pour cortège la bravoure, la bataille, la fanfare, la bannière, la renommée, la gloire, il a le rayonnement de 20 victoires, il est plein d'astres, cet Othello, mais il est noir. Aussi comme jaloux le héros et vite monstre. Le noir devient nègre, comme la nuit a vite fait signe à la mort.
Othello est un personnage qui en effet incarne une antithèse en soi, l'antithèse aussi du sujet de l'action et du moyen de l'action, l'antithèse du sujet conscient assumant un acte et du sujet inconscient manipulé de l'extérieur, agi plus qu'agissant. C'est un personnage extrêmement complexe et en même temps c'est un personnage qui prête très facilement à la caricature. Et Barbey d'Orvilly, dès 1831, semble avoir été très très sensible à cette étrangeté du personnage, à la fois complexe et ouvert à toutes les simplifications. Et comme pour le montrer dans une de ses toutes premières œuvres, qu'il n'a d'ailleurs pas publiée de son vivant, une nouvelle qui s'appelle « Le cachet d'Onyx », il fait d'Othello le sujet d'une étrange réflexion et d'un très beau dispositif fictionnel aussi. Ce cachet d'Onyx, c'est une nouvelle qui est en fait une histoire racontée à la première personne par un narrateur qu'on n'identifiera jamais, mais visiblement un homme, qui s'adresse à une femme, Maria. Cette femme, Maria, lui a fait part de son horreur pour Othello. Et le narrateur va partir de cette horreur d'une femme pour Othello, va l'analyser, va la remettre en cause, la subvertir. Et il ne va pas seulement rappeler que Othello est aussi victime qu'il est assassin. Il va montrer que finalement, jusque dans le crime, c'est encore l'humanité d'Othello qui se manifeste et que la passion funeste shakespearienne n'est pas seulement la passion qui nous transmue définitivement en monstre sans issue, c'est aussi parfois une passion qui nous déborde, qui nous fait déborder dans l'inhumain, mais pour nous ramener de façon d'autant plus poignante dans l'humain. Pour le démontrer, mais là ce serait un peu long, Jules Barbey d'Orvilly, ou son narrateur, raconte l'histoire de ce que serait un véritable monstre, une véritable inhumanité, en prenant, si j'ose dire, Othello comme pierre de touche de cette véritable inhumanité. Là où Othello est habité par une passion irrépressible, mais qui est une passion d'amour, et qui est le moteur de sa jalousie, le criminel chez Barbey d'Orvilly, lui, n'est pas habité par la passion, si tant est que la vanité pour Barbey n'en est pas une à proprement parler. C'est un personnage sans cœur, qui n'éprouve pas d'amour, et c'est précisément parce qu'il n'éprouve pas d'amour que la jalousie va le pousser au crime. Autrement dit, Othello, ce diable noir dont il est question dans la première phrase de la nouvelle, va servir à Barbey à aller encore plus loin dans la conception du mal, en forgeant le destin d'un diable blanc.
Othello vous paraît donc bien horrible, douce Maria. Hier, votre front si blanc, si limpide, se crispait rien qu'à le voir, ce diable noir. Votre haleine traînait sur vos lèvres entrouvertes, vos larmes, vos sanglots, votre pose, tout en vous disait pitié à Othello, comme si vous aviez été la Vénitienne, la Desdémona couchée sur le lit. Comme si une prière d'ange agenouillée devant un homme, essuyant ses pieds de sa chevelure divine, eût pu aller jusqu'à ce cœur possédé, affolé, enragé de jalousie et d'amour. Oh, ne le maudissez cependant pas, cet Othello inflexible. N'ayez pas peur de cette belle création d'un poète. N'ayez pas peur de cette admirable nature d'homme si riche en tendresse jusque dans ses fureurs, et à qui Desdémona pardonne en mourant comme par reconnaissance de l'amour qu'il lui avait donné. Savez-vous que personne n'aima plus que cet homme qui faisait oublier un père chéri à cheveux blancs sur le bord de la fosse à une fille respectueuse et tendre ? Qu'il avait prise intrépidement dans ses bras, elle, défaillante sous le poids d'une malédiction terrible, et qui la rendit si heureuse que jamais le souvenir de cette malédiction ne troubla une heure de la vie de cette femme timide ? Ne le maudissez pas, Maria, mais plaignez-le plutôt. Plaignez-le plus que Desdémona, qui vous fait pleurer à chaudes larmes. Son infortune est plus grande que celle de Desdémona qui crie « Ne me tuez pas ce soir, vous me tuerez demain. » Desdémona est l'heureuse dans ceci. L'infortuné, c'est Othello. Il n'est pas besoin d'être africain, d'avoir du soleil liquéfié sous une peau noire et plein ses larges veines. Il n'est pas besoin d'avoir du lion et du tigre dans sa nature pour être jaloux et se venger. Et quand cette vengeance qui n'apaise point est finie, et que l'on est si malheureux que le remords soulagerait, le remords qu'il est impossible d'avoir parce que l'amour a tout envahi dans l'amour, qui ne donnerait pas tant de souffrance au moins une larme, quand il reste une larme à donner. Pleurez donc sur Othello, jeune femme, je vous le répète, sur cette âme que la douleur a sillonnée, noircie, brûlée, ensanglantée, mise en pièces comme des balles mâchées dans de la chair et des os. La vengeance d'Othello ne fut point d'un monstre. Il pleura avant de tuer sa femme. Et quel cœur ! Il pleura aussi quand il l'eut tuée et avant d'être détrompé. Et quand il n'eut plus de larmes sous sa paupière, il en chercha la source avec la pointe d'un poignard, mais celle-là était du sang. Et elles aussi, elles se tarirent. Quoi donc ? Si je transposais les rôles, que je rendisse Desdémone jalouse, Othello le perfide, vous vous sentiriez pour Desdémone, qui se vengerait alors, une sympathie, une larme dans les yeux, et l'effroi ne vous prendrait pas en la regardant ? Qui donc vous fait peur, mon Othello, madame ? Qui donc vous fait peur dans mon Othello, madame ? Voulez-vous que je vous le dise ? C'est sa peau noire, c'est sa laideur. Sous l'empire de votre instinct de femme, quand vous vous écriez le monstre, malgré vous, c'est à sa laideur que vous pensez. Ainsi donc Shakespeare, avec tout son génie d'observation, s'est misérablement trompé. La poésie qui habitait en lui a rendu son puissant regard trouble. Il n'a pas vu la femme comme elle est. Il l'a créée une seconde fois à sa manière à lui, qui vaut mieux que celle de Dieu même. Desdémone a aimé Othello malgré sa laideur, mais il n'y a dans l'univers que Desdémone qui aime le mort. Toutes les autres femmes le haïssent, et quand la douleur l'inonde comme une pluie d'orage et le fracasse comme un vent impétueux, cet homme qui avait la forte existence du rouvre, elles n'ont même pas pitié, la plus chétive pitié. Cette jalousie, on ne l'éprouve qu'à la condition d'avoir de l'amour. Et n'est-ce pas là, Marie, de l'amour, comme il est glorieux et enivrant pour une femme d'en faire naître ? Gloire et ivresse avec les dangers qui les rendent plus éclatants et plus profonds, comme il arrive toujours, puisque le sentiment, une fois démuselé, tue pour une valse, un nom balbutié dans un rêve, pour un rien, un mouchoir perdu.
Alors le même Barbet d'Orvilly, dans ses portraits politiques et littéraires, a rapproché deux grands écrivains qu'il admire, Shakespeare et Balzac. Sont deux imaginations du même ordre, qui ont fait la même chose, sans se ressembler, et qui ont étreint jusqu'aux larmes et jusqu'au sang la nature humaine, et qui lui ont fait sortir du cœur tout ce qu'elle a dans le cœur. Mais il considère que Shakespeare peint presque toujours la même femme, qu'elle soit vierge ou épouse, mère ou fille, c'est la femme de l'instinct, dit-il, alors que chez Balzac, la femme est une affaire autrement compliquée, parce que Balzac, dit toujours Barbet d'Orvilly, peint la nature plus toute une société. Alors on avait évoqué, je crois que c'était la première fois, Sarah Bernhardt qui trouvait les rôles d'hommes plus intéressants que les rôles de femmes. Eh bien Balzac ne s'est pas privé de cette ressource et il s'est intéressé à un autre personnage majeur de Othello, Iago, qu'on va découvrir donc dans sa version féminine, La cousine bête de Balzac, un texte de 1846.
Lisbeth Fischer, de 5 ans moins âgée que Madame Hulot, et néanmoins fille de l'aînée des Fischer, était loin d'être belle comme sa cousine. Aussi avait-elle été prodigieusement jalouse d'Adeline. La jalousie formait la base de ce caractère plein d'excentricité, mot trouvé par les Anglais pour les folies, et non pas des petites, mais des grandes maisons. Paysanne des Vosges, dans toute l'extension du mot, maigre, brune, les cheveux d'un noir luisant, les sourcils épais et réunis par un bouquet, les bras longs et forts, les pieds épais, quelques verrues dans sa face longue et simiesque, tel est le portrait concis de cette vierge. La famille qui vivait en commun avait immolé la fille vulgaire à la jolie fille, le fruit âpre à la fleur éclatante. Lisbeth travaillait à la terre quand sa cousine était dorlotée. Aussi lui arriva-t-il un jour, trouvant Adeline seule, de vouloir lui arracher le nez. Un vrai nez grec que les vieilles femmes admiraient. Quoique battue pour ce méfait, elle n'en continua pas moins à déchirer les robes et à gâter les collerettes de la privilégiée. L'envie resta cachée dans le fond du cœur comme un germe de peste qui peut éclore et ravager une ville, si l'on ouvre le fatal ballot de laine où elle est comprimée. Cette fille, qui, bien observée, eût présenté le côté féroce de la classe paysanne, était toujours l'enfant qui voulait arracher le nez de sa cousine et qui, peut-être, si elle n'était devenue raisonnable, l'aurait tuée en un paroxysme de jalousie. Elle ne domptait que par la connaissance des lois et du monde, cette rapidité naturelle avec laquelle les gens de la campagne, de même que les sauvages, passent du sentiment à l'action. En ceci, peut-être, consiste toute la différence qui sépare l'homme naturel de l'homme civilisé. Le sauvage n'a que des sentiments, l'homme civilisé a des sentiments et des idées. Après bientôt 3 ans, Lisbeth commençait à voir les progrès de la sape souterraine à laquelle elle consumait sa vie et dévouait son intelligence. Lisbeth pensait, Madame Marneff agissait. Madame Marneff était la hache, Lisbeth était la main qui la manie. Et la main qui démolissait à coups pressés cette famille qui, de jour en jour, y devenait plus odieuse, car on hait de plus en plus comme on aime tous les jours davantage quand on aime. L'amour et la haine sont des sentiments qui s'alimentent par eux-mêmes, mais des deux, la haine a la vie la plus longue. L'amour a pour borne des forces limitées, il tient ses pouvoirs de la vie et de la prodigalité. La haine ressemble à la mort, à l'avarice. Elle est en quelque sorte une abstraction active au-dessus des êtres et des choses. Lisbeth, entrée dans l'existence qui lui était propre, y déployait toutes ses facultés. Elle régnait à la manière des jésuites en puissance occulte. Aussi, la régénérescence de sa personne était-elle complète, sa figure resplendissait.
Alors, à différence de la pièce de Shakespeare, le dénouement est sinistre, mais Beth ne sera pas démasquée. Elle va mourir de rage d'avoir échoué dans ses complots, avec autour de son lit toute la famille en larmes, la famille qu'elle s'était acharnée en vain à détruire. Alors on va voir une autre forme de jalousie autodestructrice et une anatomie de ce sentiment qui va être étendu justement à des thèmes beaucoup plus larges. Dans la mise à mort d'Aragon, Florence nous avait l'autre fois détaillé le feuilletage extrêmement complexe du roman, donc je ne vais pas recommencer, je vais me concentrer sur les éléments qui ont trait à Othello et qui sont eux-mêmes extrêmement complexes. Il y a d'une part le miroir de Venise, une des nouvelles de la mise à mort, la ville où Aragon a tenté de se suicider par jalousie pour Nancy Cunard, avec qui il avait une liaison, la chanson du saule qui est évoquée par son double, par le chant de Fougère. Il y a son double Antoine, dont le nom s'écrit TH, pour évoquer le théâtre et pour évoquer peut-être Othello, et ce miroir de Venise qui l'aide à comprendre ce qui se passe autour de lui, comme le miroir de Hamlet, held up to nature, présenté à la nature, que vont tenir les comédiens devant le public et qui va aider à la découverte de la vérité. La découverte de la vérité, elle est complexe. Je ne vais pas raconter ici le roman, mais dans ce miroir, le personnage d'Aragon, un de ses doubles, voit surgir une ombre qu'il appelle le tueur et qui est identifiée au cours du roman à la figure de Staline, le double Antoine étant l'Aragon stalinien qui est resté fidèle au parti et qui est le double d'Alfred. Les deux personnages vont se croiser dans le roman, et quand Alfred va apercevoir donc cette ombre meurtrière dont on ne sait plus si elle est lui-même un aveu qu'il fait dans le cours du roman ou si elle est effectivement cette figure stalinienne qu'il habite et qui le conduit, il va détruire le miroir et on va retrouver le corps de celui qui a frappé baignant dans son sang.
Et juste avant de commencer, je vais vous demander de me pardonner d'avance mon accent anglais approximatif lors des citations de ce texte.
Maintenant, il est très bien son accent.
Je haïssais Antoine. Je m'étais mis à le haïr parce que j'avais laissé Fougère en tête à tête avec lui, avec ses rêves. Tous les Christians de la terre m'étaient devenus indifférents. Je n'avais plus jalousie que de lui. Avec quelle sécurité Fougère dit d'Antoine qu'il n'est pas jaloux. Je crois l'entendre lui-même répétant les mots mêmes du mort. Thinkest thou I make life of jealousy to follow still the changes of the moon with fresh suspicions. Penses-tu que je me ferai une vie de jalousie à suivre jusqu'au changement de la lune avec des soupçons nouveaux? Oui. Oui, ces mots-là que prononce au théâtre celui dont pourtant est le nom devenu symbole, celui qu'on y appelle les grosses lèvres, comme on dit Julot les gros bras, ces mots-là sont ceux d'Antoine. J'aurais moins de mal à travailler les côtes de sa jalousie à lui que Iago n'eut à rendre Othello dément. Not easily jealous. Jaloux pas sans peine. Mais des deux, j'entends du mort et de l'honnête Iago, c'est d'abord chez celui-ci que s'est levée la plante d'insomnie. Ce n'est pas Othello, le jaloux, vous dis-je, c'est l'autre. Y avez-vous jamais pensé? Othello n'a jamais soupçonné Desdémone que déjà son enseigne Iago souffre du mal jaune. Il veut se venger du mort. For that I do suspect the lusty Moor hath lit into my seat, car j'ai soupçon que le mort impertinent a sali dans mon lit. S'il y avait quelque justice en cette vie, c'est Iago qui passerait pour le jaloux incarné, non point son général. Aussi fallait-il un homme de jalousie pour amener Othello à être Othello. Un homme qui sache d'expérience comment le mal entre en vous et se développe et vous mange le dedans du cœur. Il ne faut pas moins de deux personnages pour que la peste se déclare et devienne légende. Mais l'un d'eux portait en lui le virus, l'autre n'a fait que tomber victime de la contagion. Il n'en sait rien. Cette partialité de Shakespeare pour le mort. Un honorable murderer. Un honnête meurtrier, dit-il de lui, se bornant à désigner Iago du nom de scélérat. This hellish villain, ce vilain d'enfer, c'est le dernier mot de la pièce. Othello s'est regardé dans Iago comme dans un miroir vide. Et la face qu'il s'y est vue n'est pas la sienne, mais la jalousie de l'enseigne. Antoine, qui a perdu son image, ne peut non plus voir dans mes yeux que moi. Suis-je donc le scélérat? Suis-je Iago moi-même, avec ses yeux bleus qui font croire à ma bonté? Par une espèce de bizarrerie, Shakespeare n'a point inventé ce nom qu'il donne à l'homme d'enfer, mais l'a trouvé, à ce que l'on affirme, dans un roman de son temps qui s'appelait « L'histoire du fameux Eivor Danus, prince de Danemark, avec les étranges aventures de Iago, prince de Saxe ». Qu'est-ce que le Danemark vient ici faire encore? Mais suis-je bien le Mr. Hyde d'Othello? Moi, je puis me voir dans la glace, connaître ma propre hideur. Antoine, je n'ai qu'à lever le candélabre par quoi j'éclairais le miroir, frapper le miroir où il ne se voit pas, ou même, s'il récupérait son image, je ne le verrais jamais l'ayant brisé. Mais ce feu, dont je n'aperçois pas la source, et me mord à mourir sa brûlure. Terrible chose que le moment où Iago est du parti de son maître et partage sa douleur. Ah, tu n'avais pas songé à ça, mon cher William. Tu n'avais pas songé à ce retournement. Tu n'avais pas songé que Iago pouvait aimer Desdémone. Pour toi, il n'avait jalousie que d'Emilia, son épouse, que le mort avait peut-être bien baisée dans le lit conjugal sans même qu'on en eût changé les draps. Ton Iago n'était pas dans la pièce à côté quand Othello, dans la chambre ayant frappé Desdémone, s'aperçoit qu'elle n'est pas morte et l'achève. Où courait-il donc cette nuit-là? L'enseigne, au lieu de se trouver derrière les rideaux du lit, à monstrueusement jouir de son crime.
Alors l'autre grande figure de la pièce du roi Lear, c'est Cordélia, ou plutôt la relation père-fille, cette relation père-fille que l'on trouve traitée dans plusieurs pièces de la fin de la carrière de Shakespeare, hein. Périclès, dans La Tempête, dans le Conte d'Hiver. Hein. Et dans cette relation père-fille, ce qui intéresse Shakespeare et ce qui intéresse Hugo aussi, c'est le soutien que la fille apporte au père. Hein. C'est le manque que l'on peut ressentir si l'on n'est pas soutenu par son enfant. Cette maternité de la fille sur le père dont il va être question ici et que les uns les autres, nous pouvons nous aussi connaître dans notre vie après avoir pardonné à nos parents, ce qui est le cas de Cordélia. Et cette relation-là de soutien de la fille accordée au père, eh bien Hugo ne l'a pas connue, comme vous savez, et il ne l'a pas connue à cause de la mort de Léopoldine, à cause de la folie de sa fille Adèle. Et vous allez entendre dans ce texte de William Shakespeare, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a une forte dimension autobiographique, cette douleur de la perte de sa fille qui ne pourra plus le soutenir dans ses vieux jours.
Lear, c'est l'occasion de Cordélia. La maternité de la fille sur le père. Sujet profond. Maternité vénérable entre toutes, si admirablement traduite par la légende de cette romaine, nourrice au fond d'un cachot de son père vieillard. Le père et le prétexte de la fille. Cette admirable création humaine, Lear, sert de support à cette ineffable création divine, Cordélia. Tout ce chaos de crimes, de vices, de démence et de misère a pour raison d'être l'apparition splendide de la vertu. Shakespeare, portant Cordélia dans sa pensée, a créé cette tragédie comme un dieu qui, ayant une aurore à placer, ferait tout exprès un monde pour l'y mettre. Et quelle figure que le père, quelle cariatide. C'est l'homme courbé, il ne fait que changer de fardeau toujours plus lourd. Éperdu et immense, il jette aux bourrasques et aux grêles ce cri épique. Pourquoi me haïssez-vous, tempête? Pourquoi me persécutez-vous? Vous n'êtes pas mes filles. Et alors c'est fini, la lueur s'éteint. La raison se décourage et s'en va. Lear est en enfance. Demeurer après l'envolement de l'ange, être le père orphelin de son enfant, être l'œil qui n'a plus la lumière, être le cœur sinistre qui n'a plus la joie, et tendre les mains par moments dans l'obscurité et tâcher de ressaisir quelqu'un qui était là. Où donc est-elle? Se sentir oublié dans le départ, avoir perdu sa raison d'être ici-bas, être désormais un homme qui va et vient devant un sépulcre, pas reçu, pas admis. C'est une sombre destinée. Tu as bien fait, poète, de tuer ce vieillard.
Alors, Lear de Shakespeare, bien sûr, c'est le personnage qui porte la souffrance humaine jusqu'aux extrêmes de ce que peut endurer avant la folie l'être humain. Et cette folie va inspirer, d'une façon presque comme en vampire, Flaubert, dont j'avais parlé la dernière fois, en montrant à quel point il était imprégné de la lecture de Shakespeare, comment il labourait son Shakespeare au moment où il écrivait Madame Bovary. Et pour lui, ce paroxysme de la folie, comme il apparaît dans une lettre à Louise Collet, est un modèle d'écriture. Donc c'est une lettre de janvier 1854.
J'ai été écrasé pendant 2 jours par une scène de Shakespeare, la première de l'acte 3 du Roi Lear. Ce bonhomme-là me rendra fou. Plus que jamais, les autres semblent des enfants à côté. Dans cette scène, tout le monde, à bout de misère et dans un paroxysme complet de l'être, perd la tête et déraisonne. Il y a là 3 folies différentes qui hurlent à la fois, tandis que le bouffon fait des plaisanteries, que la pluie tombe et que le tonnerre brille. Un jeune seigneur que l'on a vu riche et beau au commencement dit ceci. « Ah, j'ai connu les femmes, etc. J'ai été ruiné par elles. » Méfiez-vous du bruit léger de leurs robes et du craquement de leurs souliers de satin, etc. Ah, poésie française, quelle eau claire tu fais en comparaison. Quand je pense qu'on s'en tient encore au buste, à Racine, à Corneille, et aux autres gens d'esprit embêtants à crever, cela me fait rugir. Je voudrais, encore une citation du vieux, les broyer dans un pilon pour peindre ensuite avec ce résidu les murailles des latrines.
Alors le vieux, c'est le vieux crocodile, c'est-à-dire Hugo Père.
Lear est un personnage qui semble avoir déclenché chez Balzac l'idée de la comédie humaine, puisque c'est alors qu'il est en train d'écrire le Père Goriot que lui vient l'idée du retour des personnages et l'idée de l'architecture romanesque qu'il passera les 15 années suivantes à construire. Il s'est élancé chez sa sœur un soir en hurlant, j'ai retrouvé la citation, « J'ai eu l'idée merveilleuse, je serai un homme de génie. » Cette idée était de ne pas simplement faire un lire moderne en la personne du Père Goriot, mais à travers la personne de Goriot, de faire se lever tout un monde, toute une société. Est-ce que c'est parce que lire lui-même a une dimension quasiment cosmique, parce que lire lui-même dialogue avec les éléments et lui aussi incarne un certain chaos du monde? Je n'en sais rien. Toujours est-il que lire a irrigué le Père Goriot bien plus profondément que simplement du point de vue un peu superficiel qu'on retient souvent, le père qui sacrifie tout à ses enfants. D'autant plus que Goriot sacrifie très volontiers, comme on va le voir, ses ressources pour ses 2 filles qui en ont au fond guère besoin. Alors que Lear, lui, comme on sait, lorsqu'il partage lui-même son royaume entre ses 3 filles, demande bel et bien quelque chose en échange, demande l'expression de l'amour. Goriot, lui, ne demande rien, il ne demande même pas l'expression de l'amour, et à vrai dire, le pauvre Goriot ne s'avise même pas qu'il n'a que 2 filles et non pas 3. Lui, il ne le saura jamais, il n'a pas eu sa Cordélia.
« Je vais vous décider, » dit le Père Goriot en sortant de son extase. « Mon cher monsieur Eugène, vous allez emprunter de l'argent à des juifs, n'est-ce pas ?»« Il le faut bien, » dit-il. « Bon, je vous tiens, » reprit le bonhomme en tirant un mauvais portefeuille en cuir tout usé. « Je me suis fait juif. J'ai payé toutes les factures, les voici. Vous ne devez pas un centime pour tout ce qui se trouve ici. Ça ne fait pas une grosse somme, tout au plus 5000 francs, je vous les prête, moi. » Vous ne me refuserez pas. Je ne suis pas une femme. Vous m'en ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier et vous me les rendrez plus tard. » Quelques pleurs roulèrent à la fois dans les yeux d'Eugène et de Delphine qui se regardèrent avec surprise. Rastignac tendit la main au bonhomme et la lui serra. « Eh bien quoi, vous n'êtes-vous pas mes enfants ?» dit Goriot. « Mais mon pauvre père, » dit Madame de Nucingen, « comment avez-vous donc fait ?»« Ah, nous y voilà !» répondit-il. Quand je t'ai eu décidé à le mettre près de toi, que je t'ai vu achetant des choses comme pour une mariée, je me suis dit, elle va se trouver dans l'embarras. L'avoué prétend que le procès à intenter à ton mari pour lui rendre ta fortune durera plus de 6 mois. Bon, j'ai vendu mes 1350 livres de rente perpétuelle. Je me suis fait avec 15 000 francs, 1200 francs de rente viagère, bien hypothéquée. J'ai payé vos marchands avec le reste du capital, mes enfants. Moi, j'ai là-haut une chambre de 50 écus par an. Je peux vivre comme un prince avec 40 sous par jour. Et j'aurai encore du reste. Je n'use rien, il ne me faut presque pas d'habits. Voilà 15 jours que je ris dans ma barbe en me disant, vont-ils être heureux? Eh bien, n'êtes-vous pas heureux? Oh, papa, papa, dit Madame Nucingen en sautant sur son père qui la reçut sur ses genoux. Elle le couvrit de baisers, lui caressa les joues avec ses cheveux blonds et versa des pleurs sur ce vieux visage épanoui, brillant. Cher père, vous êtes un père. Non, il n'existe pas deux pères comme vous sous le ciel. Eugène vous aimait bien déjà. Que sera-ce maintenant? Mais mes enfants, dit le père Goriot, qui depuis 10 ans n'avait pas senti le cœur de sa fille battre sur le sien. Mais Delphinette, tu veux donc me faire mourir de joie? Mon pauvre cœur se brise. Allez, monsieur Eugène, nous sommes déjà quittes. Et le vieillard serrait sa fille par une étreinte si sauvage, si délirante, qu'elle dit « Ah, tu me fais mal !»« Je t'ai fait mal !» dit-il en pâlissant. Il la regarda d'un air surhumain de douleur. Pour bien peindre la physionomie de ce Christ de la paternité, il faudrait aller chercher des comparaisons dans les images que les princes de la palette ont inventées pour peindre la passion soufferte au bénéfice des mondes par le sauveur des hommes. Le père Goriot baisa bien doucement la ceinture que ses doigts avaient trop pressée. « Voyez-vous, dit Delphine à Eugène, quand mon père est avec nous, il faut être tout à lui. Ce sera pourtant bien gênant quelquefois. » Eugène, qui s'était senti déjà plusieurs fois des mouvements de jalousie, ne pouvait pas blâmer ce mot qui renfermait le principe de toutes les ingratitudes.
Ce mot qui renferme le principe de toutes les ingratitudes, ce sera pourtant bien gênant quelquefois. Et en effet, à cet instant où le père Goriot croit éprouver à son profit le triomphe de sa propre générosité, de sa propre paternité, un mot qui échappe à l'une de ses filles indique que le verre est déjà et a toujours été dans le fruit. Le père Goriot, c'est aussi l'histoire de la destruction de ce père, qui n'est pas simplement une autodestruction, la destruction d'un personnage, la ruine à tous les sens du terme d'un personnage. Et cette figure de lire comme figure de la ruine, de la destruction au-delà de toute limite, au-delà de laquelle il semblerait qu'il ne resterait plus rien, ou alors qu'elle décombre sans nom, cette figure, on la retrouve chez Proust, on la retrouve dans Le Temps retrouvé, où le narrateur, Marcel, projette sur l'une des grandes figures de la recherche, le baron de Charlus, projette la figure de Lear comme grande figure du naufrage. Vous aurez remarqué que Lear, comme Othello, comme Macbeth, c'est aussi un personnage théâtral. C'est aussi un grand corps de théâtre. Lear, c'est le corps vieux, c'est le corps vieilli, c'est le corps qui lâche jusqu'à, qui vous lâche et et dont le lâchage ravage jusqu'à votre raison. Comme Macbeth, c'est le corps pétrifié, c'est le corps pris dans une pétrification, ce corps superbement décrit par Hugo qui devient pierre et qui roule dans un précipice, le précipice de sa propre perte. Cette destruction du corps, dans la figure de Charlus, est l'une des clés du temps retrouvé, comme la destruction de Goriot est l'une des clés du destin de Rastignac. Rastignac, assistant à la déchéance de Goriot, sera quasiment seul à suivre son cercueil, et c'est du sommet du cimetière, c'est du sommet du Père Lachaise que Rastignac lancera son fameux cri à Paris, à nous deux maintenant. Le témoin de cette destruction sans limite va pouvoir maintenant assumer un autre destin. D'une certaine façon, on pourrait rapprocher ce Rastignac d'Edgar, qui dans Lear lui aussi accompagne en contrepoint tout le destin du roi et finit par hériter du royaume après la mort du roi. Et peut-être qu'on pourrait rapprocher Marcel tant d'Edgar que de Rastignac comme étant celui qui, au-delà de la vieillesse et de la destruction, va pouvoir inaugurer un autre cycle. qui va récupérer le sens de l'histoire.
Arrivé aux Champs-Élysées, comme je n'étais pas très désireux d'entendre tout le concert qui était donné chez les Guermantes, je fis arrêter la voiture et j'allais m'apprêter à descendre pour faire quelques pas à pied quand je fus frappé par le spectacle d'une voiture qui était en train de s'arrêter aussi. Un homme, les yeux fixes, la taille voûtée, était plutôt posé qu'assis dans le fond et faisait pour se tenir droit les efforts qu'aurait fait un enfant à qui on aurait recommandé d'être sage. Mais son chapeau de paille laissait voir une forêt indomptée de cheveux entièrement blancs et une barbe blanche, comme celle que la neige fait aux statues des fleuves dans les jardins publics, coulait de son menton. C'était à côté de Jupien qui se multipliait pour lui, monsieur de Charlus convalescent d'une attaque d'apoplexie que j'avais ignorée. On m'avait seulement dit qu'il avait perdu la vue, or il ne s'était agi que de troubles passagers car il voyait de nouveau fort clair. Et qui, à moins que jusque-là il se fût teint, et qu'on lui eût interdit de continuer à en prendre la fatigue, avait plutôt comme en une sorte de précipité chimique rendu visible et brillant tout le métal dont était saturé et que lançaient comme autant de geysers les mèches maintenant de pur argent de sa chevelure et de sa barbe, cependant qu'elle avait imposé au vieux prince déchu la majesté shakespearienne d'un roi lire. Les yeux n'étaient pas restés en dehors de cette convulsion totale, de cette altération métallurgique de la tête. Mais par un phénomène inverse, ils avaient perdu tout leur éclat. Mais le plus émouvant est qu'on sentait que cet éclat perdu était la fierté morale et que par là, la vie physique et même intellectuelle de M. de Charlus survivait à l'orgueil aristocratique qu'on avait pu croire un moment faire corps avec elle. Peut-être aussi y avait-il encore dans les mouvements du baron cette incoordination consécutive aux troubles de la moelle et du cerveau. Et ses gestes dépassaient-ils l'intention qu'il avait? Pour moi, j'y vis plutôt une sorte de douceur quasi physique, de détachement des réalités de la vie, si frappant chez ceux que la mort a déjà fait entrer dans son ombre. La mise à nu des gisements argentés de la chevelure décelait un changement moins profond que cette inconsciente humilité mondaine qui intervertissait tous les rapports sociaux. Monsieur de Charlus, qui jusque-là n'eut pas consenti à dîner avec Madame de Sainte-Verte, la saluait maintenant jusqu'à terre. Il saluait peut-être, par ignorance du rang de la personne qu'il saluait, les articles du Code social pouvant être emportés par une attaque, comme toute autre partie de la mémoire, peut-être par une incoordination qui transposait dans le plan de l'humilité apparente l'incertitude, sans cela hautaine qu'il aurait eu, de l'identité de la dame qui passait. Il la salua enfin avec cette politesse des enfants venant timidement dire bonjour aux grandes personnes sur l'appel de leur mère. Et un enfant, c'est, sans la fierté qu'ils ont, ce qu'il était devenu. Quoi qu'il en soit, le baron, à ce moment, et même en tenant compte de mon adaptation, jetait ses paroles plus fort, comme la marée, les jours de mauvais temps, ses petites vagues tordues. Et ce qui lui restait de sa récente attaque faisait entendre au fond de ses paroles comme un bruit de cailloux roulés. D'ailleurs, continuant à me parler du passé, sans doute pour bien me montrer qu'il n'avait pas perdu la mémoire, il l'évoquait d'une façon funèbre, mais sans tristesse. Il ne cessait d'énumérer tous les gens de sa famille ou de son monde qui n'étaient plus. Moins semblait-il avec la tristesse qu'ils ne fussent plus en vie qu'avec la satisfaction de leur survivre. Il semblait, en rappelant leur trépas, prendre mieux conscience de son retour vers la santé. C'est avec une dureté presque triomphale qu'il répétait sur un ton uniforme, légèrement bégayant et aux sourdes résonances sépulcrales « Annibal de Bréauté est mort, Antoine de Mouchy mort, Charles Swann mort, Adalbert de Montmorency mort, Baron de Talleyrand mort, Sosthène de Doudoville mort. » Et chaque fois, ce mot « mort » semblait tomber sur ses défunts comme une pelletée de terre plus lourde lancé par un fossoyeur qui tenait à les river plus profondément à la tombe.
Alors, c'est peut-être ce lâchage de la raison par la folie, ce lâchage du corps par la vieillesse, qui ont fait que lire en France était une pièce assez difficile à admettre, plus que d'autres pièces comme Hamlet ou comme Othello. Et Simone de Beauvoir en témoigne dans la critique qu'elle adresse aux critiques de théâtre qui n'ont pas aimé la mise en scène du roi Lear par Charles Dullin en 1945. Charles Dullin a beaucoup joué le théâtre élisabétain. Il a joué deux pièces de Ben Jonson, dont Volpone, qui lui a valu un très très grand succès et qu'il a joué longtemps. Il a joué aussi « Dommage qu'elle soit une putain » de John Ford, et puis plusieurs Shakespeare qui ont eu du succès, Richard III, Jules César, il a renoncé à La Tempête en 1939 à cause de la guerre, mais le projet était bien lancé. Quant à son Lear en 1945 au théâtre Sarah Bernhardt, la critique est tellement acharnée contre lui qu'il devra interrompre les représentations au bout de la 30e. La pièce est... L'adaptation est due à Simone Jolivet. Notez que le grand critique, le grand shakespearien Henri Flucher, qui avait travaillé avec lui, notait à quel point Dullin était sensible avec une très grande justesse au texte de Shakespeare. Alors pour Dullin, quand il parle de Lear, il dit « C'est d'une part sa naïveté sur le plan de l'action proprement dramatique et d'autre part son extraordinaire raffinement sur le plan mental qui étonne et rebute. » C'est ainsi qu'il comprend le rejet dont sa mise en scène a été l'objet. Une belle mise en scène pourtant qui réussissait à transposer sur une scène à l'italienne la dramaturgie élisabéthaine. Alors voici comment Simone de Beauvoir commente les critiques qui se sont acharnées contre Dullin, d'après elle, et c'est le titre de son article, « C'est Shakespeare qu'il n'aime pas ».
Pour la première fois depuis des années, un des plus étonnants chefs-d'œuvre de Shakespeare est monté en France par un de nos plus grands metteurs en scène, qui est aussi un de nos plus grands acteurs. Cependant, avec une déconcertante facilité, la plupart des critiques ne nous entretiennent que de la forme des casques, du style des robes des guerriers, qu'ils n'aiment pas ces costumes, c'est leur droit. Mais il est inconcevable qu'ils se soient laissés fasciner par la forme d'un bouclier ou d'une coiffure au point de devenir aveugle à tout le reste. Une telle désinvolture est malhonnête. Dullin, se fût-il totalement fourvoyé, l'importance de sa tentative exigerait d'être prise en considération. Cette futilité entêtée n'exclut pas une extrême arrogance. Beaucoup de ces messieurs s'imaginent qu'ils détiennent, par on ne sait quelle grâce surnaturelle, les secrets du grand Will, comme ils appellent volontiers Shakespeare, ne nous faisant grâce d'aucun poncif. Monsieur Paul Bizot déclare avec aplomb, chez Lear, aucune déchéance physique. Et M. Robert Kemp s'exclame douloureusement « Où est le vieux géant foudroyé de nos songes et des songes du grand Will ?» Il refuse de considérer un seul instant que Dullin a dû aussi méditer quelque peu sur Lear et que son interprétation risque d'être aussi valable que la leur. Certes, ils ont le droit d'avoir leur opinion, il est seulement un peu outrecuidant de l'attribuer à Shakespeare en personne. Il n'y a sans doute pas plus de véritable Lear qu'il n'y a de véritable Hamlet. Mais, fort de leurs tranquilles et superbes évidences, nos critiques s'étonnent que Dullin ait pu s'interroger, chercher. Le public ignorant fait volontiers grief aux artistes de leur goût de la recherche, sans comprendre que l'art est essentiellement invention, nouveauté. On s'étonne de trouver sous la plume d'hommes plus avertis de semblables reproches. En vérité, le public français goûte peu Shakespeare et nos critiques ne font pas exception. Ils feignent d'attaquer Dullin et dans le fond, c'est à Shakespeare qu'ils en veulent. Monsieur Jean-Jacques Gauthier avoue naïvement, ce n'est pas encore cette présentation qui fera accepter le roi Lear à ceux qui osent avouer qu'ils le trouvent ennuyeux. Qu'espérait-il donc? Des intermèdes acrobatiques, des danseuses nues? S'il trouve Lear ennuyeux, qu'il n'en fasse pas grief au metteur en scène. Tout ce qui choque chez Shakespeare, voici que c'est à Dullin qu'on reproche. On déclare que ce spectacle est un cauchemar qui se termine en grand guignol. Mais c'est Shakespeare. Ce n'est pas Madame Jolivet qui fait mourir sous nos yeux dans le dernier tableau Lear, ses trois filles et Edmond. On pourrait multiplier de telles citations, mais c'est assez. Les critiques ont le droit de n'aimer ni Shakespeare ni l'esthétique de Dullin, non celui de se dérober à leur devoir de critique qui est d'abord de comprendre, puis de faire comprendre. Ils ne semblent pas soupçonner quelle responsabilité repose sur leurs épaules. L'artiste a besoin d'un public et le public a besoin de guides sûrs. Leur lourde frivolité, leur complaisance ingénue à soi-même, leur dédain de la qualité, leur mauvaise foi arrogante sont le détestable héritage d'un passé qui doit être balayé.
Alors nous allons retrouver Lear dans un dernier extrait qui va être celui d'un roman à deux voix, d'un duel de générations. Les deux voix, celles d'un écrivain et d'un acteur, qui vont être l'occasion pour Aragon d'un retour sur mai 68. Et d'une scène que Kundera raconte dans La vie est ailleurs, en ces termes. Les étudiants sifflaient et devant eux se tenait un vieil homme qui était venu là parce qu'il les aimait bien. Le vieil homme, c'est Aragon. Dans leur révolte coléreuse, ils voyaient les rayons de sa propre jeunesse. Ils croyaient que son amitié lui donnait le droit de leur dire ce qu'ils pensaient. C'était au printemps de 1968 et c'était à Paris. Mais hélas, les étudiants étaient tout à fait incapables de voir dans ses rides les rayons de leur jeunesse. Et le vieux savant voyait avec surprise qu'il était sifflé par ceux qu'il aimait. Alors cet épisode traumatisant, il est évoqué dans le chapitre « Les yeux » où les théâtres sont fermés, comme il était en mai 68. L'acteur déambule dans les rues du quartier latin en compagnie du vieux et il lui raconte qu'il fait toutes les nuits le même cauchemar dont il reconnaît la source, le roi Lear. Un policier bourreau lui crève les yeux avec un stylet et il avoue un sentiment de culpabilité qui n'est pas explicité devant la jeunesse. À la fin du chapitre, c'est l'acteur qui devient le bourreau et qui crève lui les yeux d'un visage inconnu. Alors Aragon superpose la scène où on crève les yeux de Gloucester avec les jets de grenades lacrymogènes en mai 68, l'aveuglement des personnages du roi Lear, « I stumbled when I saw »,« Je trébuchais alors que j'y voyais de mes yeux physiques », et l'aveuglement des médias, celui d'Édipe, qui est puni parce qu'il n'a pas vu les crimes qu'il commettait, et sa propre souffrance d'être rejeté par cette jeunesse gauchiste qui lui reproche sa fidélité au Parti communiste envers et contre tout. 3 mois après, les chars soviétiques entreront à Prague et au moment où Aragon écrit ce roman, théâtre-roman plus exactement, en 1974, il sait déjà que le royaume de la Révolution est pourri et que sa cause est perdue. Alors, vous allez nous lire le passage, on est dans les temps.
Dans King Lear, il y a une scène qui passe en horreur tout théâtre. C'est où le duc de Cornouailles, mari de Regan, fille du roi dépossédé, arrache les yeux du vieux comte de Gloucester. Longtemps, en France, on crut bien faire d'en cacher le détail. Et je crois que pour la première fois, c'est le metteur en scène André Antoine qui osa montrer ce moment terrible de la tragédie en pleine lumière. Le réalisme, en fait, ici, trahit la concision shakespearienne des mots. Ramène la tragédie au grand guignol. Car chez l'auteur de King Lear, le drame est langage et non mimique. Il est écrit des lèvres. Je pensais cela ces jours-ci, tandis que tous les théâtres fermés, le théâtral couvrait les rues avec les éclatements de grenades, les barricades de feu, les charges d'une police brutale, les arbres incendiés. Tout était geste et presque rien parole. Ma vie n'était plus qu'un bro renversé. J'avais mal aux yeux, atrocement, pour tout un jeune peuple. Hors de lui, en proie à l'exaltation et à la stupeur, qui se demandait s'il lui fallait demeurer à tout jamais aveugle ou si c'était l'effet d'un gaz qui s'allait dissiper. Prêt par moments à crier victoire et soudain désespéré de s'être battu pour rien. Je voyais détruit le puzzle patiemment ajusté de ma vie. Il m'arrivait de penser, qu'importe, c'est peut-être le prix de l'avenir, non ? Sans doute des gens... Mes compagnons d'hier me criaient-ils que c'en était fini du théâtre, de notre théâtre, et les décors allaient brûler dans les édifices ruinés de notre culte païen jusqu'au fond des provinces. Les troupes étaient déjà dispersées, personne n'avait appris cette pièce géante qui se jouait dans le quartier Saint-Michel, reprenant chaque soir sans espoir apparent de se dénoncer. Il ne nous restait plus, semblait-il, qu'à coucher sur les grilles des métros avec nos semblables, dans les hardes inutiles de notre profession, pêle-mêle de respiration, tête bêche de sommeil entre les pieds des passants. L'étrange était de se sentir soumis à ce jugement dernier, de le considérer comme le fait d'une justice acceptée, de n'en éprouver aucune indignation, d'accepter la sentence on ne sait où et par qui prononcée, cette dégénérescence collective, cette disqualification de tout ce qui avait été notre vie, ma vie, sa dignité, sa raison d'être. J'écoutais avec une espèce de ravissement de jeune diable parlant un langage dont la cruauté me faisait frémir, porter condamnation de tout ce qui m'avait semblé longtemps la nouveauté, l'invention, l'art, quoi. Pour prononcer un mot déjà discrédité et s'écrier devant nous leurs immédiats aînés à qui semblait incomber de payer le prix de toutes les injustices, pas de récupération. Formule qui semble avoir remplacé le trinôme de notions inscrit au fronton des mairies républicaines. Et pour en revenir à mon propos, il m'arrivait d'être contre le vieux roi Lear et pour Cornouailles et Regan parce qu'ils étaient après tout la jeunesse. de nous considérer tous comme des complices de l'ancien système, même si nous en avions payé de nos malheurs, nos travaux d'esclaves, le monstrueux fonctionnement. Pas de récupération, cela s'inscrivait sur les tableaux, les institutions et le visage des hommes. J'acceptais qu'on me crève les yeux avec une sorte de frémissement sacré. J'acceptais la reconnaissance de tous les crimes que j'avais sans doute incarnés, représentés. J'en convenais, ma vie était finie, il me fallait payer du prix de son effacement le surgir des autres, l'instauration d'un désordre nouveau. Au besoin de mes yeux crevés. Out, out, vile jelly!
Alors, à un autre moment du théâtre-roman, le vieux va adresser une lettre à l'acteur, intitulée « L'acteur devant le faux miroir ».
À nouveau, seul avec ce gouffre, ce miroir, humain sans visage, seul avec l'absent reflet qui m'efface et me fait étranger à mes yeux. J'aurais dû lire cette lettre, mais ne le puis. Le nom qu'elle porte n'est plus le mien pour l'heure. J'aurais dû la lire avant d'être aveugle, avant d'être un roi, un pauvre roi lire, roi de son délire et de rien de plus.
Je crois que nous allons arrêter là pour ce soir. Demain, on parlera de la comédie, de la théâtralité, des jeux d'illusion. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.